Question d'islam par Al-Bunshir. Aujourd'hui, nous parlons d'alchimie. D'alchimie en lien avec la mystique et les deux en contexte islamique. L'alchimie et la mystique en terre d'islam, c'est avec le professeur Pierre Lory que nous abordons ce sujet. Pierre Lory, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes Pierre Lory, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, titulaire de la chaire mystique musulmane, et vous êtes un fin islamologue, connaisseur de ces questions. Avec vous, nous abordons l'alchimie, non pas sous son angle ou sa dimension métallurgique, comme disent certains, de transmutation des métaux uniquement, mais aussi avec ses autres aspects spirituels, métaphysiques, et d'une certaine sagesse, et tout particulièrement en contexte islamique. Si vous voulez, Pierre Lory, si vous voulez bien, quel est le fond dit arabe, parce que l'expression ou la langue véhiculaire était la langue arabe, tout le moins tout au début, de l'alchimie en contexte islamique.
Il est tout à fait intéressant de voir que l'alchimie a, dès les débuts de la civilisation islamique, connu un grand succès. L'alchimie existait bien avant. Elle est née au 1er siècle avant, 1er siècle après Jésus-Christ, à Alexandrie, dans un milieu hellénophone. Une littérature s'est développée. Elle a connu des grandes figures dans l'Antiquité tardive, comme Zosime de Panopolis, tous ces textes écrits en grec.
Nous nous rappelons tous, quand nous étions à l'école, au lycée, du four Zosime, quand nous faisions les travaux pratiques de chimie.
Cette figure de Zosime est particulièrement fascinante parce que, véritablement, il a posé des textes où on voyait bien qu'il fabriquait, qu'il élaborait des substances chimiques, mais simultanément, il est clair aussi qu'il visait une transformation de l'être humain. Donc, il y a dans l'alchimie, dès cette époque-là, une vision qui est philosophique, qui est mystique, qui est initiatique, pour employer des adjectifs un peu difficiles à manier. Mais enfin, c'est bien la caractéristique de cette littérature, au demeurant fort obscure, comme on pourra en reparler.
C'est lui qui aurait parlé, Pierre Lory, pardonnez-moi, je vous interromps dans votre élan comme ça, de que les substances ont un soma et un pneuma. Partie dite corporelle et une partie un peu plus volatile et qui plus tard, on va dire, c'est l'esprit.
Ça a existé même avant lui, c'est même la base.
Avec Marie la Juive.
Voilà, qui était son vis-à-vis féminin. Mais il y a des textes plus anciens où il est question des corps et des esprits, le corps étant ce qui est solide, et l'esprit, c'est ce qui s'évapore par la distillation. En fait, le début de l'alchimie commence avec l'invention de l'appareil à distillation. Et donc, l'idée étant que les matériaux, les différentes substances avaient un corps et un esprit. Et ça, c'est le fil rouge de toute l'opération alchimique, que si on connaît les lois de l'esprit, on peut arriver à vivifier les corps, transformer les corps et apprendre au final, et ça c'est le sommet de l'objectif alchimique, au final, apprendre les lois de l'esprit divin qui régit l'ensemble de l'univers. Mais ça c'est un sujet philosophique encore plus ambitieux.
Et Marie la Juive étant la fameuse Marie pour laquelle on parle du bain-marie.
Voilà. Exactement. Non, c'est l'alchimie de ce point de vue-là a laissé quand même pas mal de traces dans le vocabulaire courant et dans le vocabulaire chimique même moderne, contemporain. Donc, quand la civilisation arabe s'est développée, les textes alchimiques, donc de langue grecque ou éventuellement syriaque, ont été traduits très tôt. Alors, on ne sait pas à quelle date exactement. Plus exactement, il existe des récits disant qu'un prince omeyyade, Khaled ibn Yazid, dans la tradition latine, le roi Khalid, se serait intéressé à l'alchimie, ce qui nous amène à une date très ancienne, parce que Khaled est un prince omeyyade qui prétendait au trône et qui, en 683, aurait été évincé par ses cousins et donc mis à une retraite anticipée. Il se serait intéressé à la culture et notamment à l'alchimie, et il aurait commandité des traductions arabes de textes donc sans doute grec, à un moine égyptien. On ne sait pas si ce fait est exact. Les historiens de la science considèrent que le récit est tardif et peu sûr. Par contre, on peut supposer que même si ce récit n'est pas exact, il y a eu très tôt, dire peut-être même à l'époque omeyyade, donc un intérêt pour cette science alchimique.
Et les historiographes disent que il a peut-être perdu le principat ou le califat, mais la postérité l'a gagné comme un alchimiste.
Comme un alchimiste qui a été après connu dans tout le Moyen-Âge latin, beaucoup plus que ses frères et cousins qui sont montés sur le trône. Par ailleurs, il y a d'autres récits autour des imams chiites, et notamment l'imam chiite Ja'far, qui est
le véridique, l'authentique,
Sadr,
mort en 765.
Voilà, qui vivait à Médine et qui est considéré par les sunnites également, pas seulement par les chiites, comme un grand savant et auquel on a attribué des compétences en alchimie. Des traités alchimiques lui sont attribués. Comme dans le cas de Khaled, en fait, ces récits eux-mêmes sont tardifs, ils ne sont pas du tout fiables. Par contre, est-ce que Ja'far ou des gens de son entourage à Médine ont pu être intéressés par l'alchimie? Ce n'est pas impossible. Donc, il est très intéressant de voir que les traductions de textes alchimiques ont été anciennes et que cette forme de science et finalement cette forme de pensée, cette forme de philosophie a attiré très tôt des écrivains arabes de confession musulmane, mais aussi chrétiens, juifs, comme s'il y avait là une vision du monde qui au fond était supra-confessionnelle.
Alors après Khaled Ben Yazid, fils de Yazid, fils de Muawiya.
Oui.
On est dans la dynastie omeyyade. Après Ja'far Sadiq, il va y avoir le fameux Jabir, le Jaber des latins.
Alors là, on entre dans l'analyse de tout un corpus.
721-815, il aurait vécu 90 et quelques années. C'est beaucoup pour l'époque, une espérance de vie réelle.
C'est beaucoup. Si on retrace les différents éléments qu'on trouve dans les traités qui lui sont attribués, il est affirmé qu'il a été le disciple proche de l'imam Ja'far à Médine. Il affirme que tous ces traités auraient été inspirés, voire dictés par l'imam Ja'far. Il aurait fréquenté les vizirs barmécides à la cour de Harun al-Rashid, le grand calife abbasside, et puis donc après il serait mort très âgé. Toutefois, les recherches contemporaines, et notamment celles d'un grand savant tchèque, Paul Krauss, ont montré que tout cela n'était pas vraiment tenable. Le corpus jaberien fait de nombreuses allusions à Aristote et aux traductions arabes de textes grecs qui n'ont commencé en fait qu'au début du IXe siècle. Donc il est difficile d'admettre qu'il y ait eu avant cette date, disons tout au début de l'époque abbasside, voire l'époque omeyyade, des traductions massives du grec. Par ailleurs, le corpus attribué à Ja'far est énorme et comporte pas mal d'allusions à des événements historiques qui n'ont pu avoir lieu du vivant de Ja'far.
Et on dit que ce fameux corpus Jarbiritarium, si je puis dire, n'est pas composé uniquement et exclusivement que de l'œuvre de Ja'far lui-même, mais on attribue, on dit que ce corpus-là à quelques écrits qui ne sont pas ceux de Jaber lui-même.
Voilà, les conclusions de Paul Krauss auxquelles j'adhère, c'est que au fond, il y a eu un noyau d'écrits qui ont pu être anciens et qui, pourquoi pas, ont pu dater du début de l'époque abbasside. Mais en tout cas, le corpus jabérien est immense, hein, c'est fait plus de 2000 titres, et les allusions à divers textes qui ont été connus à des époques repérables montrent que la rédaction de ce corpus a dû s'étaler entre, disons, la fin du 8e siècle jusqu'au début du 10e siècle, et que plusieurs écrivains donc ont attribué à Jaber ibn Hayyan, Jaber c'est celui qui répare en arabe, ça veut dire le réparateur, ibn Hayyan, fils du vivant, comme un archétype en quelque sorte de l'alchimiste par excellence, lui ont attribué donc des écrits extrêmement différents, mais qui finalement ont quand même une unité dans leur philosophie, dans leur vision du monde, et représentent un monument dans l'histoire de la pensée scientifique arabe et mondiale qui est tout à fait inégalée.
Jaber ibn Hayyan, Jaber fils du vivant, ou le réparateur fils du vivant, ne sont pas que des surnoms, c'est son appellation, c'est un concours de circonstances. Il porte bien son nom.
Oui, oui. Paul Krauss, lui, il allait jusqu'à douter de l'historicité même de Jaber. Le fait est que Jaber affirme avoir été un des plus proches disciples de Ja'far. Or, l'historiographie chiite, la prosopographie énumère tous les premiers disciples de tous les imams, et Jaber ne figure pas. Alors, est-ce qu'il a été un peu à part, discret? C'est possible. En tout cas, des recherches ont été faites par plusieurs orientalistes, et je les ai vérifiées moi-même, à savoir que quand on analyse les manuscrits de pas mal de collections de traités jaberiens, on s'aperçoit qu'il y a des manuscrits qui donnent une version brève, d'autres une version moyenne, et auprès aussi une version plus étendue qui cite les autres traités de l'ensemble de la collection. Donc on a véritablement l'impression, et pour moi c'est une certitude, qu'il y a eu un noyau d'œuvres qui ont pu être de la plume de, pourquoi pas, de Jaber, dans le cas du livre de la Miséricorde, le plus ancien, et qui ont été étoffés au fil des générations d'alchimistes, et finalement, peut-être au début du Xe siècle, ont été alors rassemblés, et par un système de référence, l'unité a été instaurée en quelque sorte.
Il y aura plus tard, en Europe, un pseudo-Jaber, le fameux Paul de Tarente. Pourquoi? Parce qu'il s'est attribué quelques écrits du vrai Jaber ou pas? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi?
Et il y a eu des traductions de l'arabe en latin de textes du vrai Jaber. Par exemple, le livre de la Miséricorde dont je parlais à l'instant. Et donc, Jaber est devenu, là aussi, comme un archétype d'un très grand savant, d'un très grand initié. Et du coup, comme on ne prête qu'aux riches, on a attribué pas mal d'écrits, de phrases, de principes à Jaber.
Pour poursuivre dans cette galerie des principaux protagonistes de l'alchimie en contexte islamique, il y a après Jaber, qui est la figure de proue, il y a encore un autre, Omeili, dont je ne sais pas pourquoi on l'appelle Seigneur Zadiste.
Ça vient, le Zadit est une déformation de Sader, là encore.
Ou parfois c'est le seigneur, le maître, ou patron. Omeili est aussi un grand alchimiste.
Un grand alchimiste qui a une œuvre, là aussi, qui dénote...
Il est du Xe siècle.
Du Xe siècle. Donc il y a lui, Ibn Umayl, et puis suivi alors par une pléiade d'autres grandes figures, mais dans des directions très différentes. Par exemple, pour rester au Xe siècle, nous avons Mohammad Abou Bakr Razi, le Razès du Moyen-Âge, qui est un très grand médecin, dont les œuvres médicales ont été traduites en latin, et qui lui-même était alchimiste. Mais, à la différence de Jaber, les autres, c'était un alchimiste très factuel, qui pensait qu'il était possible de transmuter les métaux vils comme le plomb en argent et en or, mais pour des raisons scientifiques, et qui ne s'intéressait pas du tout aux spéculations d'ordre philosophique et mystique qui étaient celles celle de Jaber, qui au contraire, lui, était tout à fait axé vers la découverte de la sagesse divine. Et c'est intéressant de voir qu'à cette époque, il existait pas mal de voies, disons, à l'intérieur même des traités alchimiques.
Il en parle davantage de cette notion de médicaments. L'adwiya, en réalité, ce sont à la fois des médicaments pour la médecine, mais aussi des ingrédients pour l'alchimie. Il en parle dans son, si ma mémoire est bonne, dans le Secretum Secretorum, le livre des secrets.
Et lui, c'est vrai, l'analogie est tout à fait exacte, était en quelque sorte le médecin des métaux, se considérait comme le médecin des métaux, et que les métaux, comme le plomb était un métal encore malade qu'il fallait guérir pour le faire progresser au niveau de l'or, ce qui était d'ailleurs une conception largement partagée. Au Moyen-Âge, l'idée était que tout évolue, tout est vivant, non seulement les animaux et les végétaux, mais les minéraux sont vivants et n'arrêtent pas d'évoluer, et notamment les métaux n'arrêtent pas d'évoluer pour devenir de l'or.
Et dans l'épître, si je reviens cette fois-ci à Seigneur Zadit, al-Omaili, Ibn al-Omail, l'épître du soleil et la lune, mais en réalité c'est l'épître du soleil à la lune, Epistola Solis et Luna Crescent, et le croissant lunaire. Là aussi, il parle de cette transmutation des métaux vils en métaux nobles, l'argyropée et la chrysopée, à la fois pour l'argent et pour l'or. C'est ce qui a fasciné et mobilisé, en gros, les alchimistes du Moyen-Âge.
Tout à fait. Et on est toujours en train d'osciller entre leur fascination pour obtenir un métal précieux comme de l'argent ou de l'or, et en même temps, d'acquérir un savoir tellement immense qu'il dépasse, bien entendu, en valeur tout l'aspect, disons, monétaire qu'on peut tirer de la fabrication de l'or.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons d'alchimie et de mystique, l'une en lien avec l'autre, en terre d'islam, dans la civilisation islamique, avec Pierre Lory, islamologue, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et titulaire de la chaire mystique musulmane. Pierre Lory, dans le sillage de ce que nous disions, de ce que vous nous disiez vous-même, si nous abordions dans cette deuxième phase de l'émission telle ou telle œuvre, par exemple, parlant de la pierre philosophale, ou la table d'émeraude, oui, la tabula samaradina, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Quel est son intérêt? Quel est son impact sur à la fois la psyché des contemporains d'un Jaber, par exemple, et plus tard?
Le cas de la table d'émeraude est particulièrement intéressant parce que, en fait, elle est un texte attribué à Hermès. Et elle apparaît pour la première fois en langue arabe, d'ailleurs, dans le traité de la secret de la création, Sirr al-Khaliqa, attribué à Balinas, qui est le nom arabe d'un théurge ésotériste grec Apollonios de Tyane, qui a vécu au 1er siècle et dont, bon, on ne connaît pas ce texte en grec. Et d'abord, premier point à souligner, la littérature alchimique de langue arabe comporte une grande partie de textes attribués à des auteurs grecs. Et c'est le cas de Balinas, qui est celui qui nous a transmis la table d'émeraude. Mais c'est le cas aussi de pseudo-Platon, pseudo-Aristote, pseudo-Socrate et des textes attribués à Hermès, à Ostanès. Enfin, il y a toute une très importante
littérature. Certaine tétralogie
de Platon. Voilà. Et c'est, tout cela est extrêmement intéressant. Et alors, les chercheurs se trouvent un peu perplexes quant à savoir si ces textes ont des origines aux Grecs ou bien s'ils ont été écrits directement en arabe à la manière d'eux. Et il faut dire qu'il y a des cas où on ne peut vraiment pas trouver la solution. On peut supposer que certains textes ont eu un antécédent grec, c'est peut-être le cas de probablement le cas de la table d'émeraude, mais il y en a d'autres où on a l'impression de parfait pastiche, si je puis dire, ou en tout cas de textes écrits en arabe, se prétendant tirer de la grande pyramide ou du tombeau ou des révélations d'Osiris. Donc il y a une référence, disons, à ce passé grec. Et c'est intéressant de voir, en passant, que les alchimistes arabes se réfèrent explicitement aux philosophes grecs, tout en considérant que lesdits philosophes grecs étaient des prophètes de leur époque. Donc il y a une islamisation, en quelque sorte, de ces grands savants qui connaissaient les secrets de l'univers parce que ils avaient reçu une inspiration. C'est le cas de Platon, bien sûr. C'est le cas de Hermès, bien évidemment. Donc, pour revenir à Apollonios de Tyane, ce livre, Les secrets de la création, se termine par une découverte d'une statue au fond d'une sorte de crypte, disons, et sur cette statue se trouve écrit le fameux texte de la table d'émeraude, donc
qui est relativement court qui commence par c'est vrai ou il est vrai ou il est avéré, il est authentique,
sans doute aucun, ce qui est en haut et ça, c'est ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et donc, cette espèce de résumé de l'œuvre alchimique va servir un peu de vademécum avec cette idée que tout ce que nous voyons sur la Terre comporte la trace de ce qui se passe à un niveau supérieur de l'être. Et ça, c'est ce qu'on comprend en général mal dans la littérature alchimique. Les alchimistes ne sont pas en train de faire des expériences au sens moderne du terme, ils sont en train de décrypter dans l'évolution de ce qui se passe dans leur laboratoire, de la couleur, de la substance, des distillations, ils sont en train de décoder quelque chose qui donnerait un message d'origine céleste.
Oui, pour faire le lien finalement entre l'alchimie proprement dite, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'alchimie métallurgique, et l'alchimie métaphysique ou spirituelle, quel est le meilleur représentant, ou est-ce que chacun de ce que nous avons énuméré tout à l'heure à sa manière établit le lien entre la mystique et l'alchimie, ou c'est Geber qui est le plus à marquer, s'inspirant de son maître, dit-il, Jafar al-Sadr?
Il faut quand même remarquer que cette littérature alchimique est profondément ésotérique et qu'elle est profondément obscure de toutes les manières, et aucun alchimiste ne l'expose de façon vraiment claire, et bien que tous prétendent le faire. Et la cause en est, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans quelques-unes de mes études, que ce que propose l'alchimie, ce n'est pas une lecture ordinaire de notre monde tel que nous l'entendons ou tel que eux l'entendaient à cette époque, avec le chaud, le froid, toute la vision du monde galénique entre l'interaction du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Les alchimistes considèrent le monde comme une perpétuelle évolution, comme des processus. Ce qu'ils cherchent à décrire, ce ne sont pas des substances, ce sont des processus. Et ces processus peuvent être du solide au gazeux, du liquide au solide. Et au fond, ce qu'ils décrivent, c'est cela. C'est-à-dire qu'on aboutit à des phrases assez paradoxales où on prend du feu, alors le feu se présente sous une forme solide et puis le feu après devient de l'air et on peut trouver de la terre liquide parce que il décrit un processus, la terre liquide, c'est un solide qui est en train de se liquéfier. La terre qui se, ce qui est décrit comme l'esprit, c'est une terre qui est en train de se gazéifier, etc. Donc, c'est une vision du monde qui est tellement différente qu'on ne peut pas la décrire en termes ordinaires.
Et c'est Geber qui ajoutera aux quatre éléments les quatre substances.
Oui.
C'est-à-dire, aux éléments terre, feu, air, eau, il ajoutera l'humide, le sec, le froid et le chaud.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a chez lui cette espèce de paradoxe d'essayer de vouloir mettre des repères, même dans ces processus qui sont finalement sans arrêt fuyants, puisqu'on n'arrive jamais, évidemment, jamais à les capter. Et il a voulu identifier ou faire un parallèle entre le processus alchimique et le processus du langage humain. Parce que dans le langage humain aussi, on utilise des sons qui sont les mêmes, qui sont fixes, mais qui, dont la succession donne des sens complètement différents. Et donc, il veut indexer en quelque sorte le langage humain, les 28 lettres de l'alphabet arabe, sur le froid, le chaud, le sec et l'humide, en espérant montrer que on aboutit à une conclusion cohérente et qu'on puisse capter ces processus. Bien sûr, c'est irréalisable. Le projet était tellement monstrueux, si je puis dire, qu'il n'a pas pu aboutir. Mais c'est une tentative qui est unique, je crois, dans l'histoire.
Et c'est lui qui, ainsi que ses successeurs après, va théoriser, et ses successeurs le feront, à propos des changements d'état quand il y a la sublimation, la solidification, la liquéfaction, etc. Et en expliquant comment cela se passe, et puis il y a une partie d'alchimie qui glissera vers la chimie expérimentale.
Aussi, et c'est, comme je le disais à l'instant, c'est le cas de Razès, effectivement, qui lui ne s'occupe de chimie expérimentale et pas du tout d'essayer de capter cette sagesse divine, ce langage divin finalement, en essayant de savoir si on prend, mettons, du plomb, on verra dans le plomb, il y a telle quantité de froid, de chaud, de sec et d'humide, et qu'est-ce qu'on peut, à partir de là, comment faire évoluer le plomb. Donc ça appartient à Geber.
Alors qu'est-ce qui, à ma connaissance, cela a fasciné des générations entières, peut-être même maintenant, quand on le cite, le fameux soufre rouge, le kibrit al-ahmar.
Oui, oui, oui.
Y a-t-il pas une dose ou une notion de, là aussi, d'ésotérisme avec un soufre qui serait de coloré ou teinté en rouge?
Oui. Mais alors, c'est ce qui est un peu surprenant dans l'alchimie de Geber, mais pas seulement lui, non, dans les autres textes aussi, à savoir que l'œuvre alchimique commence par une matière première brute qui d'ailleurs n'est jamais désignée, et aboutit à force de distillation, rééquilibre, dans la substance, il faut que le chaud, l'humide, le froid, le sec soient vraiment équilibrés. On aboutit à une substance rouge, qui est décrite comme de la substance de la cire. Donc elle est décrite avec pas mal de précision. Et si on projette cette substance rouge sur, mettons, du plomb en fusion, on obtient de l'argent ou de l'or suivant les quantités. Donc cette substance rouge, elle correspond pour l'alchimiste à quelque chose de tout à fait réel, de tout à fait concret.
Et le grand œuvre, finalement, Magnus Opus, ce n'est pas tant d'avoir cette transmutation des métaux vils en métaux nobles que de travailler sur soi.
Voilà, c'est ça, de travailler sur soi, et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour pouvoir comprendre la sagesse divine en œuvre dans l'univers, il faut avoir un esprit complètement purifié. D'autre part, on ne peut pas intelliger véritablement ces processus dans l'univers par une simple déduction. Et donc, Jaber le dit tout à fait clairement, au fond, cela vient par intuition, par inspiration divine, cache en quelque sorte. Et donc,
Un dévoilement.
Et alors, le but des écrits de Jaber, qui sont très déroutants, de Jaber et de tous les autres alchimistes, on a l'impression qu'on passe du coq à l'âne, d'un sujet à un autre, c'est d'arriver à susciter une sorte d'éveil mental qui permette, disons, de suivre plus intuitivement le processus alchimique. C'est enfin comme ça, en tout cas, que j'ai compris les allégations de tout ce corpus.
Alors, cette fois-ci, non pas uniquement pour justifier le titre de l'émission « Alchimie et mystique », mais Jaber lui-même était un mystique et dit-on bien entendu, un soufi.
Tout à fait, non. Il est clair que chez lui, c'était ça qui comptait. Il ne fait absolument jamais, jamais allusion à la valeur marchande de l'or ou au fait qu'on pourrait en tirer quelque chose. Non, pour lui, c'est vraiment parvenir à un degré de sainteté. Et alors chez lui, ça se teinte en plus d'une vision de l'évolution de l'humanité. Pour lui, visiblement, l'humanité est encore à l'état imparfait. Les hommes ne sont pas véritablement humains maintenant, parce que l'homme est, EST, ce qu'il connaît. Et donc, l'effort alchimique des Jabériens, c'était de compléter la connaissance de l'homme. Et à ce moment-là, à la fin des temps, disent certains traités alchimiques, quand l'alchimie aura été bien diffusée parmi les nations, viendra une sorte de messie, une sorte de Mahdi, qu'il appelle El Bayan, et qui va dévoiler ce qui était caché, à savoir l'alchimie, à savoir la sagesse du monde. Donc c'est une mystique, mais en même temps une mystique qui a une dimension eschatologique tout à fait prononcée.
Alors parfois, l'alchimie elle-même est comprise sous son acception métaphorique, et je pense à l'alchimie de la félicité ou l'alchimie du bonheur d'Al-Ghazali,
oui,
de l'Al-Ghazal
oui,
des Latins.
Oui, oui, oui. Là, évidemment, l'alchimie est prise dans un sens un peu métaphorique. Par contre, il y a des mystiques qui en attribuent une œuvre alchimique, mais qui, à chaque fois, c'est ce que dit la géographie sunnite, à chaque fois, l'ont délaissé parce qu'il n'était plus utile. On raconte que le maître de Tostar, Sahal Tostari, qui est mort à la fin du 9e siècle, a laissé à ses disciples une cabane, il vivait dans une cabane comme un ascète, et ses disciples, un peu surpris, ne savaient pas quoi faire, il y avait des jarres qui ne servaient à rien, ils ont cassé les jarres pour savoir ce qu'il y avait dedans, et les jarres étaient pleines d'or alchimique. Donc, Sahal Tostari aurait découvert le secret de l'alchimie, mais il n'en avait rien à faire, puisqu'une fois qu'il avait acquis la sagesse que cela suppose, l'or n'avait été pour lui comme de l'argile.
Alors, à côté de cela, il y a ceux qui ont critiqué, au sens, nous dirions aujourd'hui, académique, le processus alchimique lui-même. Je pense à quelqu'un comme Avicenne, mort en 1037, et plus tard Ibn Khaldoun, qui ont démonté l'idée que des métaux, ou des alliages de métaux, pour peu qu'on puisse les séparer leurs constituants, on retrouve en l'espèce de l'argent ou de l'or.
Oui, effectivement, il y a eu tout un débat sur la véracité ou non de l'alchimie, et qui est un débat de fond, scientifiquement parlant. Est-ce que nos substances sont véritablement, les substances que nous avons, les métaux, sont stables, sont fixes, ou peut-on les faire évoluer? Donc, évidemment, à l'extrême, nous avons Jaber qui dit oui, on peut tout changer en tout. Lui-même se fait fort de créer des animaux, de créer des végétaux. Alors que quelqu'un comme Avicenne dira non, il y a quand même chaque élément a son, il y a une essence, on peut changer des accidents, on peut prendre un métal et changer sa couleur par exemple, éventuellement changer sa densité, mais le métal restera toujours identique. Et donc du côté des négateurs de l'alchimie, il y a eu Avicenne, il y avait avant lui Al-Kindi, le philosophe arabe Al-Kindi, qui a écrit tout un traité pour réfuter l'alchimie. Parmi les partisans de l'alchimie, il y avait Farabi qui lui considérait que c'était possible, mais que ça prenait beaucoup de temps. Évidemment, s'il faut prendre des centaines, des siècles pour faire évaluer un métal, ça ne vaut pas tellement la peine.
Oui, pour les mathématiciens, un temps infini rend la probabilité une certitude. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons d'alchimie et de mystique, et c'est le lien entre les deux qui nous intéresse, avec l'islamologue Pierre Lory, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, titulaire de la chaire mystique musulmane. Pierre Lory, pour cette dernière partie, si vous voulez bien, nous passons maintenant à l'héritage ou à la réception de l'alchimie islamique, d'expression arabe, en Europe. Alors, on dit que quelqu'un comme Albert le Grand, avant même de mourir, a transmis ou a légué à Saint Thomas d'Aquin des connaissances alchimiques. D'ailleurs, c'est peut-être même pour ça qu'on disait de lui Albertus Magnus, Albert le Grand. Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce que l'historiographie précise ce legs ou pas?
Disons, les historiens des sciences en doutent. Hein. Il y a quand même tout ce qui concerne l'alchimie, et quand même, il faut bien l'avouer, reposant sur beaucoup de légendes, de rumeurs. Parce que bien entendu, le savoir alchimique n'a jamais produit d'or, c'est clair. Et donc souvent, on attribue à des grands hommes, comme en effet à Thomas d'Aquin, Albert le Grand, une production alchimique. Mais honnêtement, je crois que je ne vois pas dans quel cas on puisse considérer cela comme vérifié. Il y a eu des savants qui se sont intéressés à l'alchimie, hein, mais pas qui l'aient pratiqué, je crois que je ne vois pas.
On en a mis fin véritablement avec Lavoisier.
Oui, c'est ça. Alors ça n'a pas empêché qu'il y ait des alchimistes qui pratiquent jusqu'à nos jours même l'alchimie en pensant, disons, que la théorie atomique, la théorie moderne des éléments, en fait, n'empêche pas qu'il puisse y avoir des transmutations d'un autre ordre à des énergies beaucoup plus basses. Mais ça, ce sont des supputations.
Marcelin Berthelot s'est intéressé, d'une manière livresque ou par intérêt, à l'histoire de l'alchimie et puis un peu son passage de l'alchimie à la chimie.
Oui. Disons qu'il y a eu un moment où le côté un peu mythologique, philosophique de l'alchimie a fini par disparaître et on s'est mis à faire des expériences, effectivement, 18e, 19e siècle. Mais disons que le désintérêt pour l'alchimie a quand même été assez progressif et on peut dire que c'est plutôt à partir de la Renaissance où il y a eu encore quelques alchimistes, à partir de la fin de la Renaissance que la belle époque, disons, de l'alchimie latine a été révolue.
Et quelle est la différence entre la pierre philosophale, l'apis philosophorum et la turba philosophorum? J'ai jamais su, donc je profite de votre présence pour le savoir.
La turba, c'est un texte qui rassemble des paroles de philosophes anciens grecs, mais aussi plusieurs arabes sur la pierre, sur l'œuvre alchimique, et ce sont des paroles qui sont mises un peu en pagaille, ce qui fait que c'est un texte qui est assez difficile d'accès, assez difficile.
Dans lesquels on peut trouver celui au moins de la pierre philosophale ou pas, ou c'est à part, dans la turba?
Oui, il est, bien sûr. Alors, il est aussi question dans l'alchimie européenne de l'élixir de longue vie. Et ça, c'est une chose qui n'existe pas dans l'alchimie de langue arabe, où il est question donc de la pierre des philosophes. Hein, c'est...
Mais le mot élixir y existe.
Ah, tout à fait, oui. Tout à
cette
fait.
Idée de peut-être de jeunesse, ou voire participer à un moment donné à faire émerger la vie.
L'élixir, c'est la substance même, au fond, de la pierre philosophale. Mais je veux dire par là que... obtenir de l'or, oui, ça c'est explicite, mais vouloir obtenir une vie plus longue n'apparaît pas en milieu arabo-islamique. Ce n'est pas quelque chose qui a été recherché apparemment, ce n'est pas un thème alchimique.
Enfin, dans ma question, quelqu'un comme Jaber, le Jaber des latins, notamment avec l'élixir de vie ou cette notion d'élixir, à terme... il est possible par transmutation successive de créer, si je puis dire, et c'est peut-être même blasphématoire pour son époque, des animaux, une forme de vie. Effectivement, est-ce que ce n'est pas une concurrence ou c'est peut-être même un copartenariat avec la force créatrice divine?
Voilà, vous avez mentionné les deux options. Effectivement, Jaber va jusqu'à affirmer qu'il peut créer un être vivant. Alors, on fabrique une espèce de grande sphère qui ressemble à la sphère céleste, bien sûr, qu'on fait tourner avec l'équivalent des forces célestes. On y place du sperme et en mettant la chaleur qu'il faut, on obtiendrait, selon lui, un être humain. On obtiendrait même, dit-il, un prophète, ce qui montre bien qu'il y a quand même, me semble-t-il, un sens imagé. Et dans l'optique de Jaber, il est tout à fait clair que l'homme est un collaborateur de Dieu. Le but de l'être humain, c'est de devenir l'insan al-kabir, le grand homme. Ce que nous appelons homme maintenant, ce n'est qu'un fœtus, ce n'est qu'un embryon par rapport à ce à quoi l'homme est destiné. Et donc, s'il prétend avoir cette sagesse-là et ces pouvoirs-là, c'est en tant que lieutenant de Dieu, collaborateur, coopérateur de Dieu. Par contre, c'est bien sûr une pensée qui a scandalisé pas mal de penseurs musulmans, et c'est d'ailleurs pour ça que Ibn Khaldoun condamne l'œuvre des alchimistes en disant même si c'était possible, même en admettant que si on puisse fabriquer de l'or plus vite que ce que Dieu fait pendant des milliers d'années, eh bien, ce serait condamnable parce que ce serait justement vouloir rivaliser avec l'œuvre créatrice de Dieu.
Alors, il y a une partie d'alchimie qui a été mise à profit pour les talismans, pour une forme de magie, pour une forme de sorcellerie. Des dérives comme ça ont eu lieu.
Oui, je dirais, en fait, ce que l'alchimie a produit, mis à part la recherche de la pierre philosophale, c'est surtout de la pharmacologie. La magie, pas tellement, parce que c'est difficile, c'est un travail difficile que la que le travail de laboratoire. Par contre, beaucoup d'alchimistes étaient en fait des pharmaciens qui fabriquaient toutes sortes de médicaments.
Geber lui-même est fils de pharmacien.
Il est tout à fait.
Et il aurait pratiqué la pharmacopée ou la pharmacie.
La pharmacopée. Et là, en fonction de critères, je pense, médicaux, les critères de son époque. Et alors, l'alchimie a été rangée, disons, dans la catégorie des sciences occultes, terme qui n'existe pas en arabe, alors que l'alchimie se veut un effort véritablement scientifique. Pour nous, ça n'apparaît plus, mais en fait, c'est une vision du monde profondément articulée sur l'astrologie, les rapports des astres, fondée sur des calculs, fondée sur des dosages, et qui demande un effort long, pénible, des dépenses, et donc c'est quelque chose que l'on doit compter de plein droit, me semble-t-il, dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire de la science également.
Oui. Est-ce que nous pourrions dire, Pierre Laury, que de nos jours, notamment avec le transhumanisme, c'est que l'humain, l'être humain, l'homme n'a jamais désespéré, n'a jamais renoncé à vaincre la mort, à avoir une éternelle jeunesse. Et bien que ce ne soit pas formalisé comme étant une œuvre alchimique, nos amis transhumanistes perpétue le grand œuvre, ou à la recherche en tout cas du grand œuvre.
Je ne sais pas si on peut établir un rapport, parce que finalement, dans l'œuvre alchimique, on a l'impression que l'individu, ce n'est pas ce qui compte. Ce n'est pas ce qui compte. Il y a une recherche passionnée de science, avec l'idée que la science la science vous transforme, voilà, la science vous transforme, la science pas seulement intellectuelle, la science du cœur, et une fois que on reçoit une inspiration de science, ben on se rapproche de Dieu, et de ce point de vue-là, l'alchimie est profondément mystique, et alors que le transhumanisme, je pense, va plutôt dans le sens de l'individualisme le plus complet, c'est-à-dire sauvegarder l'individu dans ce qu'il a de plus unique, séparé.
Alors, si je vous entends bien et je comprends, si je vous entends au sens espagnol, donc à la fois j'entends et je comprends, les alchimistes musulmans étaient dans l'optique de peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche, il vaut mieux peu de science que beaucoup de culte, et étudier une partie de la nuit vaut mieux que prier toute la nuit, c'est-à-dire que l'approche par le savoir et la gnose, donc il y a une approche gnostique, à travers l'œuvre alchimique, c'est ce qui fait rapprocher de Dieu.
Oui. Alors, on ne peut pas savoir comment ils vivaient. Nous ne connaissons rien de leur vie individuelle, de leur dévotion individuelle. Mais, en tout cas, c'est vrai que le travail pour eux était une voie de connaissance. Ça, c'est sûr. Alors maintenant, le rapport à la prière, je ne sais pas. J'ai eu la chance de rencontrer en Iran, c'était en 79, un vieil alchimiste qui habitait dans la ville ancienne d'Ispahan et qui, hélas, n'avait pas de disciple, mais qui travaillait à l'ancienne. Et quand je lui demandais comment il faisait pour travailler, il disait, je prie, je médite. Et c'était intéressant parce que ça montrait bien que ce qui était important pour lui, c'était le rapport à la sagesse divine. C'était pas de multiplier les expériences.
Alors, Pierre Laury, on dit que les alchimistes musulmans, et d'abord de souche arabe, et puis par la suite, ça a essaimé dans tout l'Empire, et vous avez parlé de cet alchimiste iranien, ont fait une sorte de synthèse entre l'héritage grec, et puis il y a eu d'autres apports qui sont venus d'Inde et de Chine, et qui sont ceux de la partie spirituelle et mystique.
Honnêtement, je crois que l'alchimie dont nous venons de parler, c'est une alchimie proprement arabo-musulmane. On peut dire que l'apport de la civilisation arabo-musulmane à l'alchimie, c'était cela. C'est-à-dire que l'alchimie alexandrine, celle de Zosime, était extrêmement ésotériste. Et l'alchimie arabe a offert des concepts quand même beaucoup plus clairs, des descriptions beaucoup plus nettes. Et c'est ce qui est passé en Occident. Alors, l'alchimie indienne et l'alchimie chinoise, pour ce que j'en ai lu, sont quand même assez différentes et je ne suis pas sûr qu'elles aient influé sur les textes arabes. En tout cas, je n'ai pas senti ces données-là. Par exemple, l'alchimie chinoise est quand même foncièrement fondée sur le fait que le corps humain est comme un appareil alchimique et donc on essaie de faire traverser les énergies du four, du fourneau qui est le bas du corps jusqu'à la tête. Ça n'apparaît pas. Je n'ai pas rencontré l'équivalent.
Mais en tout cas, ça ne s'appelait pas alchimie, puisque le vocable, le mot lui-même, est ou serait plutôt de conception arabe.
Oui, alors l'origine...
Ou une arabisation du grec.
Voilà, il semble qu'à l'origine, le grec Khemeia, on ne sait pas, indiquait une terre noire dont on a fait alchimia. Mais ceci dit, les alchimistes eux-mêmes appelaient leur art sana al-ilahiya, sana, c'est-à-dire l'art
au sens de techné et non pas au sens d'ars.
Voilà.
Donc c'est une hiérotechné.
Voilà.
Une sorte d'art sacré.
D'art sacré. Alors que le mot kimia, en arabe médiéval, a le sens plutôt de ruse, de piège, de tromperie. C'est un peu... alors là, on tombe dans la charlatanerie, les faux alchimistes qui jaunissaient des métaux gris pour faire croire qu'ils produisaient de l'or.
Et pour boucler la boucle, quelqu'un comme Apollonios de Tyane, pythagoricien, était aussi dans une optique de... à la fois ésotérique, certes, mais de chimie au sens de matière noire ou quelque chose comme ça. Et quand Jaber ou Khalid ont utilisé le terme, c'était aussi pour passer du noir au blanc ou quelque chose comme ça.
Ça, je ne sais pas, mais le fait est, en tout cas, que il y a cette coloration, ce repère par le repérage par les couleurs de la terre noire, en effet, qui devient blanche, et alors, surtout, on projette la fameuse pierre rouge dessus, cette pierre rouge vif qui est la marque même que l'élixir a été atteint.
Merci. Avec cela, nous arrivons au terme de l'émission. Merci beaucoup, Pierre Lory.
Merci à vous.
Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Aujourd'hui, nous avons parlé d'alchimie et de mystique avec le professeur Pierre Lory. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abgral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Philippe Thibault. Et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lila.